Allô? Allô? Il ne répond pas?
Bon début de semaine à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix, qui vous propose ce nouveau numéro de parole aux auditeurs de la semaine. La conférence épiscopale nationale du Congo, CELCO en sigle, a rendu public le week-end dernier son rapport concernant ses contacts avec le rassemblement et la majorité pour obtenir une large inclusivité dans l'accord politique du 18 octobre dernier. Ces contacts relancent donc le débat sur le rôle sociopolitique que devront jouer les confessions religieuses dans la consolidation de la paix et le développement humain en République démocratique du Congo. Quel regard portez-vous sur ce travail? À l'adresse pa@radiookapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Gilly Pesa Bungunda est au standard. Pierre Lamegi à la réalisation. Alain Goy à la mise en onde de cette émission supervisée par Martin Kebujavik et coordonnée et présentée par J.R. Lungebo Labung Andi. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 6315 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungebo.
Nous recevons dans ce studio notre invité Idriss Katenga, secrétaire général de la COMICO, communauté islamique au Congo. Bonjour, monsieur Idriss.
Bonjour.
Voilà, c'est un réel plaisir de vous recevoir pour la deuxième fois dans ce studio pour partager, en fait, de manière citoyenne, sur cette thématique concernant la médiation des églises pour, en fait, chercher ou rechercher la consolidation de la paix et également le développement humain. Vous avez répondu à notre invitation au mois de septembre dernier, en rapport avec le dialogue qui s'est tenu d'ailleurs à la cité de l'EIA. Et aujourd'hui, nous recevons d'ailleurs pour ressortir un peu le vrai rôle que doit jouer une confession religieuse pour la consolidation de la paix. Donc, comme je l'ai dit, nous serons avec les auditeurs et également avec le président de la CIME. La CIME, entendez par là, la commission, voilà, la commission pour l'intégrité du processus électoral, la médiation voilà, électorale. Merci beaucoup, Idriss Katenga. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que les églises ont-elles un rôle à jouer dans la consolidation des confessions religieuses? Ont-elles un rôle à jouer dans la consolidation de la paix en RDC?
Merci, J.R. Je salue tous les auditeurs de Radio Okapi. Et le plaisir est partagé de passer ce moment ensemble. Les confessions religieuses ont un rôle essentiel dans la promotion de la paix et du développement humain, comme vous avez dit. Vous savez, si les confessions religieuses ne professaient que la félicité au ciel, au paradis, sans regarder ce qui se passe sur terre, ce serait un mirage. Puisque le destin humain est de vivre dans la félicité, dans le bonheur, ce bonheur doit commencer ici-bas. C'est pour cela que nous prêchons, par exemple, à la communauté islamique, que nous devons vivre sur terre comme si nous n'allions jamais mourir. Mais tout en vivant sur terre, nous devons préparer la vie au-delà. C'est dire, hier, que la mission des confessions religieuses est essentielle dans la promotion de la paix. Or, la paix n'est pas seulement l'absence de la guerre. La paix a beaucoup de facettes. La paix, quelqu'un qui a bien mangé et en paix. Quelqu'un qui a envoyé ses enfants à l'école, les enfants ont étudié dans les bonnes conditions, ils ont amené de bonnes potes. Et les parents et les enfants sont en paix. Quand on a de bonnes relations entre voisins, on est en paix. Quand la santé de la famille et de la communauté est assurée, il y a la paix hier. Donc la paix n'est pas seulement l'absence de guerre.
Alors il y a le révérend Elébé qui est le président de la CIME, Commission pour l'intégrité et la médiation électorale. Révérend Elébé, vous êtes avec nous?
Oui, nous sommes. Je suis avec vous et je salue tous vos auditeurs.
Alors est-ce que c'est le même entendement que vous avez également, vous, au niveau de l'église kimbanguiste, de la mission assignée aux confessions religieuses aujourd'hui dans la recherche de la paix? Est-ce que c'est la même mission comme venait de le dire le secrétaire général de la COMICO?
Mais tout à fait, parce que, le Seigneur Jésus-Christ a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et donc, l'église chrétienne, la confession religieuse, essentiellement, la promotion de la paix fait partie de notre apostolat. Et l'apôtre Saint Paul a ajouté par ailleurs qu'il faut toujours rechercher la paix avec le voisin dans la mesure où cela dépend de vous. Et donc la paix, la consolidation de la paix fait partie de notre apostolat. Je ne vois pas une confession religieuse qui ne ferait pas la promotion de la paix en ce moment-là, mais tout simplement une confession religieuse.
Est-ce que ce n'est pas passé outre de cette allégation qui dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César, la politique aux politiciens?
Ça dépend de votre compréhension. Et c'est rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais il faut aussi souligner que toute autorité vient de Dieu. César n'est pas César s'il ne vient pas de Dieu non plus. Et donc, César lui-même n'est pas en dehors de la religion, quelle que soit sa religion, mais toute autorité vient de Dieu et c'est comme ça qu'il ne faut pas. Et je crois qu'il y a quand même, il y a des hommes qui font, qui voient des choses d'une façon tout à fait inapproprié. Donc nous devons comprendre que toute autorité vient de Dieu, et qu'il n'y a pas d'autorité sur la terre qui échappe au contrôle divin. La promotion de la paix concerne tout le monde. Voilà.
Voilà. Alors, juste une curiosité avant de revenir au secrétaire général. On sait que dans la politique en général, en sciences politiques, on dit toujours que la politique repose sur la ruse. Est-ce qu'on peut mélanger, est-ce qu'il y a un lien étroit entre la religion et la politique? Et ça peut faire bon ménage.
Bah, écoutez, chacun a son rôle à jouer, hein? Chacun a sa partition. Hein? C'est comme dans un orchestre, il y a un maestro et chacun a sa partition. Et tout ça, ça fait la symphonie. Il y a des hommes, les politiciens, ils jouent son rôle, ils sont dans les temporels, strictement dans les temporels. Vous ne voyez pas un président de la République ou un ministre, etc., parler de l'au-delà. Et ça, c'est pas son rôle. Mais nous, en tant que confession religieuse, nous parlons de l'au-delà. Ça fait partie de notre apostolat. Et comme l'a dit Idriss, qui est avec vous là-bas, tout ça, nous, ce n'est pas seulement l'au-delà, mais il y a aussi le social. Et on est sur la terre. Et voilà.
Voilà. Merci beaucoup, Révérend. Nous vous gardons encore en ligne. Et nous revenons à vous, à Idriss Katinga, secrétaire général de la Comico. Est-ce que vous partagez cet avis? Et qu'il y a vraiment un lien étroit entre la politique et la religion?
Absolument. Il y a un lien étroit entre la politique et la religion. Si nous considérons la politique dans le vrai sens du mot, au lieu de nous cramponner au sens pervers qui lui est donné dans le contexte de notre pays, à partir des pratiques, à partir des comportements, on a l'impression que la politique, c'est quelque chose qui ne peut pas s'accommoder à la morale. La politique, par définition, c'est le service public. Et alors, quand on parle du service, c'est la bienfaisance, qui est dans tous les domaines. Nous pouvons énumérer ainsi les domaines qui constituent le corpus du travail des dirigeants temporaires. Nous avons dit, s'il vous plaît, nous avons dit éducation, nous avons dit santé, nous avons dit tout ce qui concourt à l'amélioration de la vie sur Terre. Eh bien, il n'y a rien d'incompatible avec l'enseignement de la religion. Par contre, un dirigeant politique qui fait sienne la foi, qu'il s'agisse d'un chrétien ou d'un musulman, il travaille avec les principes divins, celui-là promeut par excellence les services publics.
Alors, quel regard avez-vous ou portez-vous sur le travail que font aujourd'hui les confessions religieuses dans la recherche, par exemple, de la consolidation de la paix?
Comme le révérend Hélène venait de le dire, les confessions religieuses sont dans leur mission première, chercher la paix. Parce qu'un peuple qui n'a pas la paix ne peut pas penser à Dieu. Il pense d'abord à sauver sa peau. Comme je vous ai dit au début, un peuple qui n'a pas mangé, il ne demande qu'à manger. Donc il y a un lien. En principe, là où la politique se fait correctement et la paix est assurée.
Mais dans l'histoire du pays, reconnaîtront dans l'histoire du pays, notamment de la RDC, on se rend compte qu'il y a eu quand même l'implication des confessions religieuses dans la recherche de cette paix. Même en 60, tout comme en 65, si nous parlons de Kimbangu, en 90 avec la conférence souveraine, nous avons vu en tout cas l'implication, si significative des confessions religieuses. Aujourd'hui, c'est ce que nous observons. Est-ce que ce travail peut être critiqué aussi par les communs des mortels?
Oui, puisqu'il s'agit d'un travail fait par les humains, il peut être critiqué. Mais vous l'avez dit vous-même, les confessions religieuses sont toujours présentes à chaque rendez-vous de l'histoire de notre pays. Déjà avant la décolonisation, avant l'indépendance, il y a les confessions religieuses qui se sont mobilisées pour l'indépendance du pays. C'est des questions d'émancipation. Vous avez cité vous-même Simon Kimbangu, mais on peut enchaîner aussi l'abbé Maloula à l'époque, devenu cardinal par la suite, s'est impliqué. Et à chaque rendez-vous, les confessions
religieuses.
La manifestation africaine. Et puis après, à chaque rendez-vous, les confessions religieuses sont là. Vous avez parlé de la conférence nationale souveraine où les confessions religieuses se sont mobilisées derrière les cardinal Monsengo aujourd'hui. Et les confessions religieuses ont fourni un travail considérable. Et même après, quand notre pays était à un moment donné à la porte de la balkanisation, il avait éclaté en plusieurs lambeaux, les confessions religieuses se sont impliquées à San City pour amener les uns et les autres à mettre de l'eau dans leur vase.
Et le Sénat de la transition avec
Marie-Louise. Nous avons dirigé. Mm-hmm. Alors, ça veut dire qu'à chaque rendez-vous, maintenant, dans le contexte actuel, il y a les problèmes, mais il y a quand même une nuance qu'il faut noter, c'est que pendant toutes les rencontres que nous avons évoquées dans le passé, toutes les confessions religieuses étaient unies comme un seul homme et parlaient d'une seule voix. Peut-être que la différence maintenant, c'est que il y a comme une propension à l'indépendance de certaines confessions religieuses. Ce qui n'est pas mauvais, parce que on ne dit pas que quand on est confession religieuse, on voit toujours les choses exactement de la même manière.
Voilà. On va voir un peu quel sera maintenant l'impact. Est-ce que ce sera négatif ou positif de cette multiplicité de manière de voir les choses, comme vous venez de le dire. 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Nous disons merci d'ailleurs à tous les auditeurs qui ont déposé leur message sur notre page Facebook.
Radio Okapi encourage les 20 talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y. On vous attend.
Parole aux auditeurs.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Alain, vous êtes à Kinshasa. Bienvenue dans cette émission. Bonjour Alain.
Bonjour Radio Capi. Bonjour à tout le monde. Bonjour à votre invité.
Voilà. Alors, vous avez dit dans votre message, Alain, que vous soutenez la laïcité. Mais vous reconnaissez en même temps que vous reconnaissez d'ailleurs en même temps que les confessions religieuses, de manière générale et singulièrement celles de la RDC, jouent un rôle prépondérant dans le système politique.
Effectivement, encore plus difficile d'ailleurs, nous devons reconnaître la place de choix qu'occupent aujourd'hui les confessions religieuses. Comme je l'ai dit dans mon message, le système politique est éclaté en trois parties ou en trois composantes. La première composante reste le régime politique où on voit l'organisation de la politique. La deuxième composante, c'est la structure économique où nous voyons les agents chercher à s'enrichir ou à enrichir l'État. Et la troisième composante reste l'organisation sociale. C'est à ce niveau que nous voyons la forte influence de la religion ou de confessions religieuses. Si nous prenons en termes de valeurs, les confessions religieuses prônent pour un système de valeurs qui est d'ailleurs repris en grande partie par l'organisation sociale ou par l'État. Nous voyons la Constitution qui met en évidence les valeurs humanistes telles que le droit de l'homme, le droit à la parole, le droit au manger, le droit de liberté d'expression et tout ça. Et bien, cela est tiré de la religion, parce que c'est la religion qui fonde le système de valeurs qui est prôné par l'État. Alors, ce qui est important de mon point de vue à ce stade, c'est d'abord voir ce que l'Église ou la religion joue dans notre État. La religion est un ensemble de valeurs qui permettent à ce qu'il y ait harmonie entre les personnes, entre les hommes. Nous voyons, il y a la religion qui unit les communautés ou les tribus, la religion qui unit les partis politiques, même en termes idéologiques, la religion qui permet à ce que nous ayons des écoles conventionnées, nous ayons nous devons des entreprises, même par, de, par des religions ou par des églises, tout ça, ça concourt au bien-être de l'homme. Parce que dans l'église, on cherche l'amélioration des conditions de vie, mais surtout le développement intégral de l'homme. Il y a une dimension que l'État n'arrive pas à déjouer que la dimension intrinsèque de l'homme. Ce qui met en évidence un certain nombre de valeurs qui permettent à ce que nous ayons des hommes moraux, qui marchent conformément à certaines valeurs, qui font des choses pour le bien-être de la communauté. Alors, l'interdépendance ou la corrélation qu'il y a entre la religion et l'État, c'est tout simplement parce que c'est la religion qui devait en principe donner des hommes de valeur pour le fonctionnement de l'État. Celui qui est pris de valeurs religieuses, et bien quand il arrive à avoir le poste des responsabilités au niveau de l'État, et bien il a une sorte de garde-fou, il a une sorte d'encadreur spirituel qui lui dit ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Mais malheureusement, dans le cadre congolais, nous assistons à une sorte de régier, n'est-ce pas, de ces valeurs, bien que il y a des religions qui fonctionnent, qui permettent à ce que nous ayons cette culture-là, mais malheureusement, il y a toujours des gens qui font exception, et c'est ce qui justifie en partie la situation que nous avons.
Alors, est-ce que
moi, j'ai toujours précisé dans la religion ici au Congo. Nous prenons le cas de l'Église catholique et les autres religions qui sont aussi en France. Ces églises ont plus tendance à se gérer dans des questions qui sont purement politiques. Au lieu de jouer le rôle de pasteur ou les dirigeants, ils prennent de voix position par rapport à certaines questions. Alors que dans la laïcité, on voudrait à ce que l'Église soit plutôt une autorité morale, une autorité qui conduit le peuple sans prendre position. Donc on voulait avoir l'Église au centre des questions politiques et non prendre des pensions, et ce qui justifie en partie qui perdent de plus en plus leur la présomption que nous avons sur eux, sur leur mentalité.
Merci beaucoup Alain, je retiens que pour vous nous devons rester plutôt dans les principes de la laïcité de notre pays, hein, qui en fait donne quand même lieu à plusieurs courants de pensée et aussi des convictions religieuses. Alors à ce titre, vous fétigez donc parfois, c'est vous, le comportement de l'Église catholique qui se gère un peu beaucoup plus dans la politique. Voilà, donc je reçois directement, donc je vais accueillir directement Franck qui est à Vienne. Franck, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité au studio et aussi à deux amis qui sont déjà exprimés.
Alors, Franck, vous avez suivi Alain et également nos deux invités. Disons, au regard du travail que font aujourd'hui les confessions religieuses, c'est vrai, il y a une part de responsabilité, surtout dans l'ingérence en matière politique de certaines confessions religieuses, qui commence un peu à déranger les communs des mortels, quoi.
Oui, merci beaucoup pour la parole. Vous me permettez de dire un mot de civilité à un des pasteurs de l'Église catholique universelle. Je le cite, Monseigneur Timothée Bodika, qui, dans la cérémonie de la prise de possession canonique, a eu lieu à Kikwit. Nous lui souhaitons un futur ministère épiscopal à la tête de cette diocèse. Pour revenir à la thématique du jour, je dis d'abord merci à l'invité qui est au studio, qui a placé des bases déjà scientifiques fondées. Et je remercie aussi les compatriotes qui a parlé au nom de l'Église timbaliste. Je veux étendre le débat en disant qu'il y a des raisons citoyennes et sociales fondées pour chaque confession religieuse de s'intéresser aussi de manière claire à l'actualité citoyenne du pays dans lequel elle est implantée et doit rayonner. Mais la question est de savoir par rapport à quel aspect, à quel moment et comment. Et dans ma contribution, je veux plus parler du rayonnement intégral de l'Église catholique, dont je suis moi-même un fidèle, pasteur et aussi penseur. L'Église catholique qui est universelle à travers ses charges et attributions, a une ramification de mission à remplir pour le bien-être intégral de ses fidèles qui sont aussi en partie les citoyens de ces pays respectifs. Mais comme les deux compatriotes l'ont déjà dit, je veux plus revenir sur la dimension sociale et la dimension prophétique. Je crois qu'on ne doit pas aller très loin parce que les citoyens d'un tel pays que le même qui peut être chrétien, soit catholique, soit protestant, soit kimbangiste, soit musulman. Donc, pour moi, je dis que les citoyens d'un pays est d'abord un dénominateur commun de certaines confessions religieuses. Et si ce citoyen de ce pays ne se porte pas bien, donc il y a peut-être une ramification de conséquences qui peuvent aussi s'étendre au niveau de sa foi. Et par rapport à la contribution des confessions religieuses chez nous, je dis encore merci à l'invité. Il a déjà rappelé le fait que le combat des confessions religieuses ne commence pas seulement
aujourd'hui
avec l'actuel gouvernement. Depuis Simon Kimbangu, il a commencé à militer pour que nous soyons indépendants. Et vers les années 50, aux approches des années de l'indépendance, vous vous souviendrez avec moi qu'il y a eu même un document, Les prêtres noirs s'interrogent. Dans cet ouvrage, on avait déjà donné des directives pour que les citoyens de certains pays noirs deviennent indépendants. Et pour le cas du Congo, à l'époque du Zaïre et du Congo maintenant, on ne doit pas négliger l'apport des évêques de l'époque et surtout du cardinal Malula. L'invité l'a bien dit. Et avec la zarianisation, nous sommes vers les années 70. Nous savons comment le cardinal Malula, de rêve mémoire, s'est impliqué pour rappeler à l'État, au chef de l'État de l'époque, ce qui devait être fait. Et aux approches des mouvements de la démocratisation et de conférences nationales souveraines, nous avons vu, pas seulement chez nous en République démocratique du Congo, mais même dans certains pays de l'Afrique, il y a eu des prélats qui se sont engagés, qui se sont impliqués pour rechercher la paix. Monsieur le journaliste, je crois qu'on ne doit pas penser que quand on est pasteur, quand on est leader d'une confession religieuse, les questions politiques ne peuvent pas vous intéresser. Je crois que c'est une mauvaise lecture de la politique. Parce que si nous devons mettre la politique comme organisation de la cité, chaque confession religieuse doit rayonner dans la même cité et on doit conjuguer des efforts ensemble parce que on ne peut pas dire l'église catholique s'ingère à ceci, l'église protestante. Non, je crois que le débat n'est pas là-bas. Donc nous devons seulement nous rendre compte que les évêques, les pasteurs, les imams, les pasteurs de toutes ces églises-là, s'ils peuvent bien lire les documents de la politique, ils vont comprendre que nous avons tous la mission de cohabiter pour vivre en paix. Okay.
Merci beaucoup, François.
La paix,
merci.
On l'arrache. La paix, on ne l'obtient pas de manière naïve. La paix, on l'arrache.
Merci beaucoup, François.
De ce côté-là, je suis tout à fait d'accord avec l'invité au studio, avec le compatriote qui a parlé de l'église. Mais la difficulté que je veux aussi dénoncer, c'est quand vous avez dit que la politique arrière, la politique, c'est une grande dérive. Ça peut être vrai, mais je dois aussi préciser ici que les confessions religieuses ont une autre perception, une autre conception sur la manière de faire la politique. Ils se trouvent en face des citoyens qui font de la politique un business. Donc, quand les évêques vont voir nos politiciens, le danger est justement à ce niveau-là. Ils ont en face des paternaires qui n'ont pas la conception de la réelle politique, qui sont dans leur tête. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a un peu de décalage.
Merci.
Entre tous les deux,
rapidement,
les politiciens savent que pour eux, la politique, c'est pas seulement pour organiser les activités de la cité, ils en profitent pour affaiblir l'unité des confessions religieuses. Ils peuvent penser prendre déjà de telles confessions pour les opposer par rapport à
ce
point. Je crois que c'est le moment pour les leaders de confessions religieuses de se mettre d'accord, de se souder afin de parler partout d'une seule voix. Parce que le Congolais qu'on soutient à une exploitation, le Congolais qui est.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé. On va prendre l'ingénieur Valérie. Après avoir écouté Alain Bourlejoie et Franck, en fait, Alain qui a fait sujet l'ingérence de l'Église catholique dans la politique, et Franck qui a aussi divisé le point de vue de notre invité tout à l'heure, et ainsi que celui du révérend LDB, qui les a appelés également de Kinshasa, en disant que, voilà, malgré que nous vivons dans les contextes de la laïcité, l'apport ou la contribution des confessions religieuses, elles sont très pertinentes. Et là, comme l'invité, ils ont évoqué également les parcours historiques de notre pays où on a constaté comment l'implication des confessions religieuses. Alors, ingénieur Valérie, vous avez quelque chose à ajouter, vous nous avez appelé de Kindou. Bonjour, ingénieur Valérie.
Bonjour, j'ai quelque chose à ajouter là-dessus, puisque la vie des Congolais en dépend. Je disais qu'il est tout à fait normal que l'Église puisse aussi s'intéresser à la politique. D'ailleurs, nous croyons que la politique elle-même invite parfois l'Église en insistant. Par exemple, lorsque la CENCO, la COMICO se sont retrouvées à la Cité de l'Union africaine, c'était sur demande des politiciens. Elles ne s'y sont pas retrouvées comme par hasard. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment utile. Nous devons savoir que la religion est une organisation très importante et très influente dans la vie politique, dans la vie sociale. Parlons d'abord du point de vue, mon ami Alain Boulodjo a déjà parlé du point de vue social, je voudrais aborder maintenant du point de vue pédagogique et même économique aussi. Du point de vue pédagogique, n'oublions pas qu'il y a 5 milieux éducatifs en pédagogie. Nous avons la famille, l'école, l'église, la profession et l'État. Et de tous ces 5 milieux, vous remarquerez que l'église est là pour donner des vertus spirituelles, des vertus cardinales aux hommes qui sont produits par les milieux appelés famille, desquels hommes ont été formés par un autre milieu appelé école, qui est aussi le prolongement de la famille en matière d'éducation, puisque l'école donne aussi les deux, l'éducation et l'instruction, lesquels hommes sont appelés à aller travailler dans des entreprises pour contribuer au développement. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier notre pays, pas parce que nous n'avons pas été à l'école, pas parce que nous ne connaissons pas travailler, mais tout simplement parce que nous sommes dans la logique de la science, sans conscience, ni que ruine de l'âme. Et dans tout ça, l'Église doit toujours contribuer pour donner aux hommes, pour donner à la société, pardon, des hommes qu'il faut. Et même l'État aussi. L'État va construire les pays avec quel type d'hommes. L'État va confier des postes de responsabilité dans des institutions à quel type d'hommes si en ceci, il n'y a point de vertu cardinale digne de développement. À ce point de vue, nous disons que l'Église a un rôle prépondérant dans la société. Je termine avec la pédagogie.
Oui, allez-y, terminer, comme ça on va accorder la parole aussi à l'autre invité, ainsi que Rivera Elébé qui est en ligne.
Ok, je vais maintenant un peu plus vite. Même du point de vue économique, nous voyons que le premier facteur même dans les choix des consommateurs, c'est la religion. Aucun agent économique, aucun entrepreneur ne peut aller implanter une usine de poissons là où se trouvent les musulmans, par exemple. Donc, dans tout ça, nous voyons que l'Église joue un grand rôle. Maintenant, s'agissant du rôle des CENCO, je ne suis pas catholique, mais je loue terriblement ce rôle. N'oublions pas que la CENCO est parmi les composantes qui ont donné du poids au dialogue politique de l'Union africaine avant leur sortie. Et juste même maintenant qu'elle continue sa mission de bons offices, je n'ai entendu personne, ni de la majorité présidentielle, ni du rassemblement, accuser la CENCO de partialité. Dès lors qu'il n'y a pas partialité, dès lors que la CENCO joue sur base des sondages qui sont faits, par différents organes et organismes internationaux qui disent voilà, il y a un danger qui guette la RD Congo et qu'il faille que les acteurs politiques se mettent ensemble. Mais moi, je ne vois pas du mal.
Merci.
Ce sont des données que nous-mêmes, nous n'avons jamais contredites.
Merci beaucoup, Ingénieur Valéry. Merci beaucoup, Ingénieur Valéry, d'avoir contribué dans cette émission. On revient à vous, Idriss Katsenga, secrétaire général de la COMICO, Communauté islamique au Congo. Vous venez de suivre les uns et les autres. Donc, c'est vrai, un débat qui est vraiment ouvert, et nous signalons d'ailleurs à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, qui nous suivent aussi en direct sur notre page Facebook, qui peuvent également débattre avec certains internautes. Et merci à tous ceux qui sont branchés sur les nets et qui débattent aussi également avec nous sur cette question sur la conférence épiscopale nationale qui a rendu public le week-end. Mais nous avons pris ces contacts comme un point de départ pour débattre de cette question sur la médiation et la recherche de la paix dans l'implication des confessions religieuses. Alors, Idriss Katsenga, quel est le commentaire? Comment réagissez-vous par rapport au point de vue d'ailleurs d'Alain Boulodjo, qui officie aussi l'ingérence des confessions religieuses dans la vie politique? Franck n'a pas partagé ce point de vue. Ingénieur Valéry, qui a rappelé encore certaines valeurs, certaines vertus morales, et que la religion qui devait plutôt donner des hommes, des valeurs pour diriger un État.
Alors, je salue très positivement les interventions des uns et des autres. Et de mon point de vue, au lieu de voir la différence entre ces différentes prises de position, pour moi, il y a un fil conducteur. Quand Alain parle de valeurs, cas Franck, lui, il dit que le dénominateur commun entre toutes les confessions religieuses, c'est les citoyens. Parce que les musulmans, les kimbanguistes, les catholiques, les protestants, il est d'abord citoyen. Et quand les confessions religieuses travaillent, même lorsqu'elles ne s'occupent que de leurs propres fidèles, elles travaillent pour les citoyens. Et même Valérie qui a ajouté une dimension pédagogique et même économique. Les commentaires, c'est qu'effectivement, et au niveau des confessions religieuses, le travail, et tout le temps, c'est la promotion de valeurs. Et c'est d'ailleurs dans ce combat de promotion de valeurs qu'on a l'impression qu'ils entrent dans tout. Parce qu'on ne peut pas faire la politique s'il n'y a pas un minimum de valeurs à promouvoir. Et les valeurs, c'est l'équité, la justice, le partage. La paix, c'est aussi une valeur essentielle. De la même manière qu'il est au bout de compte, bénéficiaire de tous ces services, de tout ce travail, c'est le citoyen. Alors, ici, ce que je vais ajouter aussi, c'est que les confessions religieuses, si je reviens au schéma de Valérie, vous allez constater qu'elles sont présentes à tous les niveaux. Même au niveau familial, déjà, c'est à ce moment-là qu'on apprend à l'enfant qu'il y a un être suprême qui
nous soyons
des bons
citoyens.
Des bons citoyens. D'abord, à la famille, on lui dira qu'il faut être un bon enfant. Devenir adulte, il faut être un bon citoyen, ainsi de suite. Déjà, la religion intervient là-bas, ne serait-ce qu'à travers l'éducation, la morale et l'éthique. Mais même quand on envoie l'enfant à l'école, là, il y a l'éducation, l'instruction, la religion le suit. Et devenir adulte, la religion est avec. On peut même changer de milieu familial. Un individu peut, après avoir grandi, aller évoluer ailleurs, très loin de sa famille, et trouver d'autres conditions. Mais au moins, il y a une religion là-bas. Et donc, la religion, c'est ce qui est transversal et c'est ce qui nous poursuit partout. C'est pour cela que nous considérons que la religion, c'est un créneau pour appeler les citoyens à leur responsabilité.
Est-ce que vous ne pensez pas que les divisions que nous constatons aujourd'hui, donc l'absence de l'unité au sein de toutes ces confessions religieuses, ça pourrait avoir un impact négatif dans la recherche de la paix, ou c'est-à-dire dans la démarche que pourrait entreprendre n'importe quelle confession religieuse dans la recherche de la paix?
Bon, d'abord, de mon point de vue, je ne pense pas qu'il y ait cette absence d'unité entre les confessions religieuses. Au niveau de notre pays, il y a 8 grandes confessions religieuses qui sont reconnues comme telles.
Peut-être que ce serait un mauvais exemple, si je l'ai rappelé, les confessions religieuses ne s'étaient pas mises d'accord lorsqu'il fallait désigner celui qui devait les commandes au niveau de la CENI, par deux fois d'ailleurs, qui ne sont pas mis d'accord sur certains points. Bon voilà, pour ne pas, si nous nous révélons un peu en arrière lors de la conférence épiscopale, la conférence nationale souveraine, on a vu les catholiques d'un côté, les protestants de l'autre. Bon, on finit. Il y a quand même une majorité au niveau des confessions religieuses qui avait dans les comptes de la société civile décidé pour que finalement on donne aux catholiques. Bon, bref, comme pour dire, à un certain moment, on fera quand même une dose de division au sein de cette corporation de la société civile.
Alors moi, je réaffirme le contraire. Pour moi, il n'y a pas de division au sein des confessions et entre les confessions religieuses. Ne serait-ce que à travers deux éléments que je veux vous donner. D'abord, nous sommes en démocratie. La démocratie ne signifie pas toujours l'unanimité. Ça, c'est de un. À un moment donné, on peut se mettre d'accord. À un moment donné, on peut avoir des désaccords. Mais la désunion, c'est quand on se rentre dedans. Et de mémoire d'homme, les confessions religieuses aujourd'hui en République démocratique du Congo, qui évoluent au sein d'une grande plateforme, aujourd'hui présidée par l'Église catholique, n'en sont pas encore arrivées là. Et ça, il faut le saluer. Bon, pour le reste, à un moment ou à un autre, une confession religieuse peut regarder les choses différemment que d'autres. Moi, je crois que ça rentre dans la dynamique et le cadre de l'exercice de notre liberté. Même déjà au niveau des citoyens, on ne peut pas demander à tout le monde de penser la même chose. Vous avez donné des exemples, par exemple pour la désignation des responsables à la CENI. À un moment donné, il y a un débat. Mais les gens voient tout simplement la conclusion qu'ils n'avaient pas établi l'unanimité. Mais ils oublient qu'avant d'arriver à la désignation, les confessions religieuses ont toutes travaillé ensemble, dans les deux cas. Elles étaient toutes ensemble. Et je pense que les gens qui travaillent ensemble,
je termine par un autre élément. Je voulais que si le référent LB pourrait vous compléter rapidement. Référent LB, vous êtes avec nous?
Je vous suis.
Alors, à un certain niveau, parce que là, vous êtes à la CIMÉ, vous faites également une médiation, une forte médiation pour les cadres de processus électoral. Est-ce qu'on peut dire qu'à un certain moment, il n'y a pas un désaccord qui, en fait, constitue un élément de blocage, par exemple, pour une démarche commune des confessions religieuses dans la recherche de la paix?
Non, non. Je voudrais revenir sur un fait qui me paraît important. Nous sommes la commission d'intégrité et médiation électorale. Dans la mesure où nous faisons la promotion de l'intégrité électorale, c'est essentiellement la promotion des valeurs. Je prends une vertu comme la modestie. C'est très important dans la mesure où un acteur politique ou un compétiteur électoral qui n'a pas cette vertu de modestie ne pourrait pas être capable de prendre son téléphone et de, si vous voulez, de reconnaître son échec, hein, de reconnaître la victoire de l'autre. Et ça, cette vertu est très importante. Et nous, dans la mesure où nous faisons la promotion de vertu, la promotion de l'intégrité électorale, c'est justement pour atteindre cette dimension que quand il y aura élection chez nous dans notre pays, que celui qui perd prenne son téléphone et félicite celui qui a gagné. Et comme ça, on aura la paix dans le pays. Ça, c'est un. De deux, vous avez la promotion de vertu qui, par exemple, quelqu'un qui... bon, disons que dans les dialogues, quand quelqu'un n'est pas humble, n'est pas modeste, n'est pas tolérant et n'est pas prêt à accepter la contradiction ou le point de vue de l'autre. Et c'est cela que nous faisons au niveau, nous faisons la promotion de l'intégrité électorale. Un autre élément, c'est que on signe des accords, bien entendu. Mais ceux qui signent ces accords doivent pouvoir le respecter. Et donc l'intégrité aussi, c'est le respect des engagements, de la parole donnée, etc. Tout ça, ça fait la personnalité. Mais quant à dire que la désunion pourrait freiner moi, comme a dit mon ami Idriss, nous on est ensemble. Un médiateur d'abord, c'est pas, il n'est pas un juge, il n'est pas avocat, il n'est pas conseiller. Et donc c'est quelqu'un qui intervient juste pour rapprocher le point de vue. Et donc on ne peut pas voir entre leurs yeux des hommes qui...
Alors comment vous analysez les communiqués de presse de la conférence épiscopale nationale? Ça pouvait aussi être le cas de bons offices amorcé par l'équipe bandiste, par exemple. Alors, quelle analyse faites-vous par rapport au point qui a été évoqué lorsque la CENCO évoque des points de convergence qui sont tout à fait pertinents, mais de l'autre côté, il évoque 6 points qui constituent le point de divergence et demande à ce qu'il y ait une confrontation directe?
Oui, mais c'est ça. La CENCO joue son rôle. Ah, bon, écoutez, moi je ne veux pas faire des commentaires, disons que dans la médiation il ne faut pas trop parler, hein. Nous on pourrait, si ça nous demande, bon, il y a un élément fondamental, hein, c'est la confiance. Quand on fait la médiation, il faut que les deux parties vous fassent confiance. Et quand il y a rupture de confiance, la première chose à faire, c'est quoi? C'est de renouer la confiance. Il faut que la partie qui est en rupture revienne en confiance, et à ce moment-là, on peut continuer. Et donc, le problème de médiation, c'est un problème extrêmement sensible, délicat, et il faudra bien que l'élément fondamental, le fondateur, c'est la confiance. Et donc, à ce moment-là, la CENCO a toutes les compétences pour le mérite, ça, il faut le reconnaître. C'est des personnes de bonne volonté qui connaissent bien la technique de la médiation, etc. Mais c'est un problème de confiance, un problème de crainte, un problème des intérêts qui sont en jeu, et tout ce que je peux conseiller, c'est que, bon, il y ait de la patience, que tout le monde fasse preuve de tolérance, de modestie, de patience, et nous joignons tous nos prières pour que les choses marchent dans la bonne direction.
Voilà, on va revenir à vous également et aussi à Idriss. C'est le temps d'écouter, d'accueillir les deux auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Maître Jean-Paul, vous êtes en Bandaka, prof Ignace Collodi. Maître Jean-Paul, bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs. Maître Jean-Paul. Voilà, on parle plutôt à professeur Ignace de Collodi. Professeur Ignace, vous êtes à Collodi, bonjour.
Bonjour JR, bonjour aussi aux invités et aux auditeurs. Merci pour la parole. Je me dis que d'entrée de jeu, ici, il y a deux conceptions qui s'affrontent. Ça, c'est la première analyse. C'est qu'il y a d'un côté ceux-là qui expliquent que l'Église doit accompagner ses fidèles qui sont citoyens, d'autres acteurs politiques et dirigeants. C'est que quand il y a eu une crise, il n'y a pas d'entente entre les fidèles, des fidèles qui sont utilisés dans les différents secteurs de la vie politique. Alors, à ce moment-là, c'est la réaction interventionniste de l'Église, comme on le voit aujourd'hui. Il y a l'autre conception selon laquelle il faut rendre à César ce qui est à César et s'impliquer dans ce qui est politique, ce qui est gestion du pays, ça devient un sacrilège. Ça, c'est la première analyse. Mais il faut dire aussi ici que l'intervention en ce qui concerne de la SENCO en tant que organisation religieuse, une structure de l'Église qui s'intéresse à la situation, je me mets d'abord en parlant de l'Église catholique, qu'il s'agit d'une histoire liée même à excusez-moi de répéter le terme histoire, mais l'histoire de notre pays. L'Église catholique a joué un grand rôle. Elle est parmi les églises qui ont joué un très grand rôle. Les colonisateurs se sont appuyés sur cette église. Et d'ailleurs, à ses débuts, on ne savait même pas distinguer la religion et la politique. Mais je reviens maintenant à un aspect purement sociologique. C'est que lorsque on parle du changement social, il y a cela qu'on appelle les agents de changement social. Il y a les élites, il y a les partis politiques, il y a aussi ce qu'on appelle le groupe de pression. Et c'est dans le groupe de pression où l'on trouve généralement les ONG de droits humains, les étudiants, les mouvements sociaux, les mouvements ouvriers, mais il y a aussi les organisations religieuses. Les organisations religieuses sont considérées comme ce qu'on appelle le groupe de pression partiel. C'est-à-dire, en fait, l'Église a pour mission de prêcher l'Évangile, de prêcher la paix, mais à un certain moment, elle peut intervenir pour non pas prendre le pouvoir, mais essayer d'influencer les dirigeants et retourner au bon sens ou inculquer en eux ou rappeler certaines vertus par rapport à la gestion citoyenne de la société. Merci. C'est à ce titre-là que l'on peut considérer l'intervention de la SENCO. Mais le grand problème qui se pose, c'est à quel niveau situer réellement la neutralité des présences des structures qui interviennent dans une situation où il y a un clivage, il y a l'opposition, il y a le pouvoir. Vous allez remarquer que jusque-là, la SENCO, pour certains, hein, c'est comme on a semblé dire qu'elle prenait la position de l'opposition. Personnellement, je ne pense pas. Il n'en est rien. Jusque-là, cette structure est restée chercher à concilier, à rapprocher les gens. C'est pratiquement la politique, la situation de conflits sociaux. Il y a là la médiation, et quand on fait la médiation, à un certain moment, on va comprendre qu'on va vous taxer des partisans, mais ce qui est vrai, et que sociologiquement parlant, en tant que ONG, en tant que groupe de pression partiel, ça peut s'expliquer, cette intervention, voilà. Mais pourvu que les acteurs demeurent d'une façon neutre, comme je suis en train de le sentir.
Voilà. Le temps qu'on puisse accueillir d'autres auditeurs qui nous ont envoyé également leur message par rapport à cette thématique. Une réaction rapidement, groupe de pression partielle.
Je suis d'accord avec Jean-Paul. D'abord, par rapport à la lecture qu'il fait de l'action de l'Église catholique, que je salue aussi. Vous savez, quand on s'investit dans une activité comme celle-là, on n'est pas à l'abri des critiques. Et parmi les critiques, il y en a qui sont de bonne foi, il y en a qui sont de mauvaise foi. Mais je retiens la question. À quel moment on peut parler de la neutralité? Je crois que c'est à ce niveau-là. Vous savez, par rapport à l'environnement et aux enjeux actuels, toutes les confessions religieuses sont investies dans le travail. Les sept autres confessions religieuses, auxquelles d'ailleurs s'ajoutent de temps en temps des grandes communautés chrétiennes ici à Kinshasa, travaillent, font le même travail, avec les mêmes acteurs. il y a peut-être une différence d'approche. Comme l'a dit le reverend Elébé, qui est par ailleurs président de la CIMI, il y en a qui préfèrent mettre le travail à la place publique. Mais nous, comme nous sommes surtout dans l'aspect médiation, nous disons que trop de communication tue la médiation. Mais les acteurs eux-mêmes, ils savent. Et de notre point de vue, nous n'avons pas à souligner les divergences. Nous travaillons patiemment, parce que vous vous souviendrez que le reverend Elébé a insisté sur la patience. Nous travaillons donc patiemment pour arriver à concilier les vies des uns et des autres. Et pour cela, nous croyons que l'ennemi principal, c'est cette affaire qui est courante chez nous, de se donner des délais butoirs. Il faut travailler en fonction de telles dates. La paix, tout comme la démocratie, ce sont des processus laborieux et qui demandent beaucoup d'efforts, beaucoup d'écoute, beaucoup de patience.
Des concessions.
Beaucoup de concessions. Et ces concessions-là, surtout chez nous, où on traite, on négocie comme si on était dans une situation de belligérance. Il faut suivre les communiqués des uns et des autres, les déclarations des uns et des autres. Chez nous, l'adversité, les adversaires politiques se traitent comme des ennemis politiques. Et c'est qu'on agit comme si on n'imagine pas qu'un jour il y aura...
Oui, parce qu'entre nos familles, le communiqué de la FELCO a suscité, en tout cas ça a donné l'occasion à plusieurs personnes de donner de la voix, et chacun a interprété, a fait des analyses de sa façon. Quoi.
Oui, la FELCO, c'est pourquoi elle a trouvé nécessaire de rendre son communiqué maintenant. Mais moi ici, je suis en train de vous parler d'autres approches qui sont mises en œuvre, mais pour atteindre le même résultat, pour arriver à mettre les uns et les autres ensemble. Nous disons que donc nous travaillons avec les acteurs locaux, ceux de l'opposition, la majorité de la société civile, et même la communauté internationale. Parce qu'il ne faut pas oublier que la communauté internationale joue un grand rôle dans tous les processus politiques dans notre pays. Il y a quelqu'un, il y a un intervenant au début là, et je crois que c'est notre ami Franck, je crois, qui peut nous parler
de
oui, qui parlait de l'affaiblissement du rôle de confession religieuse, qui serait à un moment donné instrumentalisé par les politiciens. Mais il n'y a pas que les politiciens. Il y a beaucoup d'instances qui ont une influence certaine sur ce que nous
avons. Même la communauté internationale.
Même la communauté internationale. Je dirais même principalement la communauté internationale. Alors, mais il y a des confessions religieuses qui disent à la communauté internationale que nous avons besoin de votre accompagnement. Mais cet accompagnement doit rester accompagnement. Il ne s'agit pas de nous dire ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. C'est peut-être ce qui fait aussi les sensibilités.
Voilà. Il y a un auditeur qui nous a
répondu au niveau du débat. Koustala, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, c'est M. Fortunat qui parle depuis Kinshasa.
Oui, quelle est votre contribution? Quelle est votre contribution au niveau du débat? Pourquoi vous invitez les uns les autres?
Oui, j'allais dire ceci. Nous sommes un pays indépendant. Ça fait plus de 50 ans, ça fait plus de 50 ans. À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. C'est-à-dire quoi? L'Église catholique doit essayer un peu de se différencier. La politique et l'Église, ce sont deux choses qui se diffèrent. Nous n'allons pas chaque fois mélanger les choses. Si l'Église catholique veut réellement terminer avec la politique, qu'on prend le soutien, qu'on mette des côtés, qu'on puisse avoir des candidats et certains postes politiques. Mais s'ils sont là seulement pour mettre des partis, moi je trouve que c'est de perdre dedans. Parce que si on doit seulement suivre la CENCO, nous n'allons plus respecter l'accord signé par la CENCO. Allô? Allô?
Oui, allez-y tout ça là.
Oui, nous n'allons pas respecter l'accord signé par l'Union par l'Union africaine. Donc, ce que nous devons faire, c'est quoi? Les Congolais doivent être sûrs d'eux-mêmes. On doit tout le temps arrêter de créer la communauté internationale, la Banque mondiale, ceci, cela. Nous sommes un pays indépendant. Nous devons faire les efforts. Ces pays doivent avancer par les volontés du peuple congolais, surtout les politiciens.
Voilà.
Nous devons surtout arrêter.
On va prendre quand même notre auditeur qui nous a arrivé également. Ils sont nombreux, hein. En tout cas, le téléphone est vraiment sur le point d'exploser. On va accorder quand même à chacun une minute. Félicien qui nous a arrivé également. Félicien, vous venez de quitter le prédécesseur. Rendre à César ce qui est à César. Est-ce que vous partagez cet avis?
Bonjour Gérard, bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs de la Nord-Pas-Bi. Moi je partage pas cet avis dans la mesure où la politique a pour mission l'organisation de la gestion de la cité et à ce titre tout le monde a un droit de regard à cette gestion de la République. et en tant que leader d'opinion, j'ai encadré des masses. Et les églises ou les hommes d'église ont un rôle à jouer dans la gestion de la cité. Et nous devons aussi savoir que la paix ne signifie pas seulement absence de guerre, mais ça signifie surtout que les meilleures conditions de vie de la population. Et c'est cette population qui est dans les églises, quand elle est misérable, qu'elle a des difficultés, elle ne peut pas mener une vie normale à cause de la mauvaise gestion de la République, comment voulez-vous que les hommes d'église se taisent et puissent regarder des choses comme si ça ne les concernait pas? Et je sais qu'il y a dans des confessions religieuses, il y a des confessions religieuses où il n'y a pas vraiment d'éthique et de morale, où les dirigeants, c'est des dirigeants des confessions religieuses sont facilement corruptibles et sont prêts à sacrifier l'intérêt de la population en soutenant les régimes despotes. Et peut-être c'est ça que beaucoup de gens veulent en disant qu'ils ne doivent pas se mêler de la politique. Mais moi, je pense pas que c'est un bon comportement. Mais nous devons féliciter l'Église catholique qui a toujours démontré combien elle est excellente dans plusieurs domaines de la vie de la population. Elle est restée, je suis sûr, toujours l'Église au milieu du village. Elle est toujours à la recherche du mieux-être de la population. Et ça, nous devons soutenir. Moi, je ne crois pas qu'on soit Église ou comme tout simplement qu'on accepte qu'il y ait un régime au lieu de gérer la cité dans l'intérêt de tout le monde et en train de gérer la cité dans l'intérêt d'un groupe et qu'on devra soutenir ce régime-là. Ça, c'est être méchant et ne pas aimer les prochains.
Voilà, merci beaucoup Félicien. Révérend LB, vous venez d'entendre tout à l'heure un auditeur qui a lâché en disant que la religion ou les confessions religieuses constituent quand même un groupe de pression partielle. Est-ce que vous partagez cet avis?
Groupe de pression partielle ou groupe de pression totale, etc., tout ça. Écoutez, c'est relatif, hein, mais dans tous les cas, c'est une question de rôle. C'est de rôle à jouer. Hein, comme Idriss l'a dit, l'Église a un rôle à jouer et dans ce rôle-là, elle reste, parce que dans tous les cas, tous ces fidèles, tous ceux qui sont dans la société sont fidèles. Vous avez ceux qui sont dans l'opposition sont dans nos confessions religieuses, que ceux qui sont dans la majorité sont dans nos confessions religieuses, ce sont nos fidèles. Et dans tous les cas, je pense que, disons, un rôle à jouer, un rôle de pression à jouer, ça va de soi. Pression morale, ce n'est pas pression matérielle, pression morale. Et je ne pourrais même pas parler de pression quand il s'agit de confessions religieuses, il faudra trouver un autre monde, un accompagnement. Hein. Bon, je vais être plus clair. Vous savez que quand le Seigneur vous libère, quand un homme est libéré, il y a seulement, on le laisse pas, on l'abandonne pas, on l'accompagne. C'est cela la notion de la terre promise. Il y a eu un accompagnement jusqu'à l'arrivée. Et c'est le rôle de l'Église, des confessions religieuses. C'est essentiellement son rôle d'accompagnement. C'est comme ça qu'il faut l'attendre. C'est vraiment pas un rôle de pression. C'est un rôle d'accompagnement.
Merci beaucoup, Révérend. Révérend LB, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je crois que nous allons vous invité à nouveau pour notre débat, peut-être un rapport toujours avec cette médiation, très prochainement. Alors nous revenons à vous également pour conclure, Idriss Katenga, quel est le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? On sait tout de même que dans l'ensemble du débat, on est arrivé à dégager un point de vue selon lequel que l'Église joue un rôle important. Et le Révérend LB l'a dit, bon, il ne s'agit pas réellement d'une pression, mais réellement d'un accompagnement.
C'est raison, c'est l'accompagnement, c'est la mission des confessions religieuses. Et cet accompagnement commence à la famille et accompagne les citoyens toute sa vie durant. Je veux terminer aussi sur le mot de neutralité. Tout ce qui est demandé, tout ce qui doit être demandé aux confessions religieuses, c'est de travailler dans la neutralité. Et cela n'est pas à discuter. D'autant plus que une confession religieuse par excellence regorge de citoyens de toutes les sensibilités. Du moins parmi ceux qui croient. Il y en a qui sont à l'opposition, il y en a ceux qui sont à la majorité, et la confession religieuse ne peut pas travailler uniquement pour une tendance ou pour une autre. Et c'est pour cela que les confessions religieuses sont créditées par cet esprit de neutralité qui doit nous accompagner. Le problème commence quand les chefs de confession religieuse commencent à prendre une position tout à fait personnelle, parce que cette position a été dictée par une instance nationale ou extérieure.
Mais dans le contexte actuel, c'est difficile d'avoir des hommes, bon, comme vous le dites, dans le langage religieux, sains, purs, et qui peuvent faire face quand même à certaines réalités, à certains réels politiques.
On peut y arriver. Pour y arriver, la confession religieuse ne peut pas donner sa propre position. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire. Nous faisons parler les acteurs. Et c'est peut-être ce que demandent les compatriotes qui disent que nous devons donner à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui est à César. Pour nous rendre à César ce qui appartient à César, en ce qui concerne la politique, c'est de dire à l'homme politique quelles sont les valeurs à promouvoir et les laisser décider et prendre l'orientation qu'il convient.
Idriss Katenga, nous rappelons que vous êtes secrétaire général de la COMICO, Communauté islamique au Congo. Merci d'avoir été des nôtres. Nous disons également merci à tous les auditeurs qui ont contribué à cette émission. On n'oublie pas le révérend Elébé qui était également avec nous en ligne depuis tout ça, donc, qui est le représentant légal et premier suppléant de l'église qui, Mbangiste, et président de la CIMÉ, entendu par la Commission d'intégrité et de médiation électorale. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette réalisation. Alain Goy était à la mise en onde, Pierre Lamégé à la réalisation, Julie Pézabongonda a assuré le standard de cette émission, supervisée par Martin et c'est déjà coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt.